Les livres ont la parole, RTL L'Express. Bernard Lehu.
Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Nouvelle Cité. Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Alors, une vie peut se résumer parfois en un titre de livre, une phrase, Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. Et pourtant, quelle trajectoire! Parlez-nous, Henri Quinson, du jeune homme que vous étiez il y a 20 ans, en 1989.
En 1989, j'étais trader. Alors les traders aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que mon livre, en fait, c'est une trajectoire de lieux dont tout le monde parle, c'est-à-dire les salles de marché, mais aussi c'est des lieux où personne n'habite, où très peu de gens connaissent directement. Et effectivement, j'étais trader en 1989. Après, je fais tout un parcours, je vais dans un monastère, un autre lieu mystérieux, et puis les cités HLM à Marseille, autre
voilà,
lieu mystérieux.
Alors ça, on va y revenir.
Mais le trader en 1989...
Et puis alors, pas n'importe quel trader, vous étiez vraiment l'un des plus brillants à l'époque.
Oui, il ne faut pas mettre trop de superlatifs, mais enfin, disons que c'est
vous
vrai...
Vous pouvez pêcher par, ouais, par orgueil. Allez,
tout se passait bien pour moi. C'est vrai que j'habitais avenue Bosquet avec la vue sur la Tour Eiffel, je faisais un peu de politique pour un ancien Premier ministre, Raymond Bar. Et puis je donnais aussi des cours en troisième cycle universitaire. J'avais une vie bien remplie, intéressante et
les
bien rémunérée.
Les chercheurs de tête vous chassaient, comme l'on dit.
Oui, on avait Mary Lynch, paix à son âme, qui à l'époque se portait bien, et une banque américaine importante qui m'appelait littéralement tous les jours et qui me proposait un petit peu plus d'argent. Mon père était banquier, était très étonné qu'à 28 ans on puisse me proposer tout ça.
Et puis, il y a un moment clé, un 23 août 1989, vous racontez ça d'une manière formidable, vous êtes à bord d'un avion en business class, bien sûr, entre Stockholm et Londres, avec, dans une main,
la coupe de champagne qu'on me propose, et dans l'autre, le psautier, un livre de prière, et il est justement question de la soif de Dieu. Alors, soif de bulle, soif de Dieu, c'est pas forcément contradictoire, en tout cas. Pour les chrétiens, puisqu'on peut, on peut boire de l'alcool, c'est pas un problème, mais ça résume un peu mes déchirements intérieurs, parce qu'à l'époque, je commence à me poser des questions sur le sens de tout ça, et toutes les questions que j'avais mis un peu au frigidaire me reviennent, et je me dis, en fait, qu'est-ce que je veux faire? Aller à Londres gagner plus d'argent avec une banque américaine, ou éventuellement rejoindre un monastère, idée un peu grenu pour mes collègues qui ne voient pas trop...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, ils ne voient pas ça venir et effectivement quand je vais leur annoncer que finalement je décide de démissionner de la banque pour un monastère cistercien en Haute-Savoie, ouais. J'ai certains collègues qui ont le visage un peu fermé comme un ordinateur qui bug et je sens le disque dur qui cherche à traiter cette information un peu curieuse.
Alors on va revenir à cette vie à la trappe et puis ensuite dans les quartiers nord de Marseille, mais peut-être encore un mot. Alors sur l'argent, c'est très intéressant parce que vous dites que l'argent n'est pas sale, vous ne condamnez pas l'argent et l'activité, le travail des banquiers.
Oui, les gens sont un peu surpris, ils s'imaginent que si je suis parti, c'est que tous les banquiers sont pourris, l'argent est sale,
etc. C'était le diable.
Voilà. Mais ma position est beaucoup plus nuancée, je pense que l'argent est un mauvais maître.
Mais un
bon serviteur, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de monnaie. J'ai toujours d'ailleurs un compte bancaire très peu rempli, mais je m'en sers quand même pour aller m'acheter à manger tous les jours. Et nous vivons en communauté avec des murs dans une cité HLM, donc il y a toute une dimension matérielle. Mais c'est plutôt cette course effrénée à l'argent et puis aussi l'explosion des salaires qui me paraissait assez critiquable. Mais c'est pas les services bancaires en tant que tels qui sont critiquables, puisque bon, moi je travaillais sur le marché d'échange. Tant qu'il y aura un espace euro et un espace dollar, il faudra bien échanger les devises, donc c'est une nécessité.
Ce qui veut dire que la crise, tout ce qui arrive aujourd'hui, finalement, ne vous a peut-être pas étonné.
Mes collègues rient jaune, c'est-à-dire qu'eux ont pas mal de difficultés en ce moment. La semaine dernière, j'ai encore deux collègues qui m'ont annoncé qu'ils avaient été licenciés. Et ils constatent que mon livre, justement, Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, ça suscite un peu la curiosité en ce moment. C'est vrai que la crise, finalement, fait que je suis devenu, selon eux, un petit produit contracyclique. C'est-à-dire que quand tout baisse, on s'intéresse finalement à quelqu'un qui a investi peut-être sur des bonnes valeurs, des valeurs sûres. Parce que c'est vrai que la rencontre, l'éducation, la recherche d'une spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas soumis aux variations du CAC 40.
Alors d'autres fromages, les vrais cette fois-ci, ceux que vous allez fabriquer dans cette abbaye cistercienne en Savoie, l'abbaye de Tamier. Et le premier jour où vous êtes dans cette fromagerie, vous, l'ancien trader, vous êtes pris d'un fou rire.
Je suis pris d'un fou rire parce que j'étais dans une salle des marchés, on gérait 15 milliards de dollars, c'est l'équivalent du budget de la Tunisie, à 15 traders. On était connectés à Hong Kong, Singapour, Tokyo le matin, après on travaillait avec Londres, et puis le soir on travaillait avec Wall Street. Et tout d'un coup, je suis au fin fond d'une cave, dans le silence. Donc c'est un choc, je dirais même trop traumatique, pas au sens négatif du terme.
Oui, parce mais c'est que un faut rire dans un premier temps, mais ensuite, évidemment, tout cela ne sera pas facile.
Voilà, il faut entrer dans une vie quand même assez différente, vivant à la campagne, dans une communauté assez diverse, et tout le monde n'avait pas dans cette communauté fait HEC, Sciences Po ou l'ENA, et donc c'est un environnement humain très différent, mais en même temps, une expérience très riche.
Mais en même temps, bon, très vite, il y a des manques. Évidemment, vous n'êtes pas comblé par cette vie monacale, cette vie de prière. La prière, vous en aviez besoin, et vous aspirez à autre chose. Et cette autre chose, c'est servir les autres.
Oui, il est très curieux, et je l'ai noté dans mon livre, c'est qu'en 1989, avant même de rejoindre ce monastère, j'ai une vision. Je me vois à Marseille, une ville que je ne connais pas, que je ne sais d'ailleurs pas écrire correctement.
Toujours dans un avion d'ailleurs, non, si je me souviens bien.
Oui, exactement. Ouais. Et en fait, je me vois à Marseille entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée que j'aide pour leurs devoirs. Et donc, je vais finalement quitter ce monastère pour rechercher une communauté, effectivement, qui soit à la fois une communauté de prière, mais une communauté de présence et d'entraide dans des quartiers difficiles. Et je déboule comme ça, finalement, à Marseille par un concours de circonstances assez mystérieusement.
Mais très concrètement, vous, l'ancien trader riche à millions, dites-nous comment vous vivez aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous êtes en pleine immersion dans ce quartier nord de Marseille. Vous y vivez en permanence.
Exactement. Alors, c'est quelque chose de très curieux, mais je dirais que je rejoins par là beaucoup mes voisins, parce qu'eux-mêmes viennent de pays très différents d'une autre, culturellement, religieusement, socialement, souvent c'est difficile pour eux au départ. Moi j'ai fait le chemin un peu inverse, j'ai fait une mobilité sociale descendante volontaire. C'est un peu bizarre, mais c'est aussi pour moi un certain décalage et je crois qu'à ce niveau-là, justement, on se rencontre parce que nous sommes tous un peu déracinés et on habite effectivement avec des gens qui se retrouvent dans cette mise au banc, cette expression un peu délicate de banlieue qui quand même a des relents un peu d'exclusion. Et habiter là nous permet justement nous-mêmes de vivre un temps de conversion et d'expérimenter aussi la difficulté de la vie de ses frères dans les banlieues qui sont différents mais qui ont aussi leur dynamisme.
Alors différents notamment parce qu'ils ne partagent pas la même religion que la vôtre. Et on voit dès le départ, vous êtes très préoccupé par la relation, le lien entre l'islam et le christianisme.
Oui, c'est très important parce que j'ai pris vraiment conscience à Marseille des douleurs qui ont suivi par exemple la guerre d'Algérie, 8 ans. Alors c'est la guerre entre, je dirais, deux nations, mais derrière, en fait, il y a plein de choses. Islam, christianisme, l'Occident, l'Orient. Et toutes ces blessures, finalement, demandent de vivre des micro-climats de réconciliation. Et je raconte dans mon livre cette histoire d'un de mes voisins, Abdou, qui au début me voit portant une petite croix au cou et me parle les yeux fermés.
Ferme les yeux chaque fois. Oui. Voilà. Vous lui dites, mais pourquoi
tu fermes les yeux? Parce que je lui dis, moi j'ai lu le Coran et le Coran ne t'interdit pas de regarder une croix. Mais ce n'est pas notre conversation théologique ou exégétique qui change les choses. C'est simplement que 6 mois après, il se rend compte que ses amis viennent jouer au Scrabble chez nous. Et il vient jouer au Scrabble, et pour gagner une partie, il faut évidemment ouvrir les yeux. Mais c'est donc la logique du voisinage qui permet d'aborder ces questions religieuses de manière assez tranquille et constructive, en nous rejoignant dans notre humanité commune par le simple fait d'habiter avec les gens. Ça, c'est extrêmement important dans notre expérience.
Parlez-nous franchement, Henri Quinson, à aucun moment un regret de cette vie matérielle très confortable que vous aviez il y a 20 ans ?
Bah, le regret, c'est vraiment une question spirituelle très profonde, puisque c'est votre rapport au temps. Si vous êtes tout le temps dans le regret, c'est que vous êtes plutôt plongé dans le passé. Très sincèrement, j'ai une vie très riche, pas sur le plan financier, mais très riche de rencontres et très passionnante. Donc, je n'ai pas tellement eu de regrets et je n'ai pas tellement le désir de revenir à une vie comme celle d'autrefois. Mes questions, c'est plutôt, bon, quelle est la prochaine étape? Et de ce point de vue-là, il y a toujours un désir d'aller un petit peu plus loin ou plus profond.
Henri Quinson, merci. Comment on appelle un moine, d'ailleurs? Frère? Mon frère ou...
Ben, frère, c'est pas mal. C'est très beau, frère. Mais pour moi, tout le monde, tous les êtres humains sont des frères. Donc, je ne suis pas très attaché au titre. Et dans mon quartier, on m'appelle tout simplement Henri.
Eh bien, Henri, merci. Je rappelle le titre de votre livre, de ce récit, ce témoignage exceptionnel, Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille. Restez en notre compagnie, comme c'est l'usage dans cette émission. Vous aurez tout à l'heure le mot de la fin.
Bernard Lehu, les livres ont la parole.
Bonjour Delphine Perras.
Bonjour Bernard.
Alors, qui sont les élus du palmarès L'Express RTL cette semaine, catégorie roman?
Du côté des romans, c'est très calme, hein, Bernard. Les vampires de Stéphanie Meyer tiennent toujours la corde, puisque les 4 tomes de sa saga Fascination trustent à nouveau les 4 premières places du palmarès.
Bon, mais alors derrière.
Seul dans le noir de Paul Auster reste aussi à la 5e place. Jolie progression du roman de Philippe Dian, que vous aviez reçu à cette antenne, Impardonnable, qui passe de la 11e à la 7e place.
Du côté des essais et documents?
Alors là, les nouveautés sont plus nombreuses, hein. Commencez par Moi, Nos jours, Mouloud, 10 ans divorcée, le témoignage de la, cette jeune femme yéménite qui s'est confiée
on l'a
à,
vu partout, hein, sur à la journaliste
Delphine Mini, voilà, et qui occupe illico la première place du palmarès. Où on voit papa de Jean-Louis Fournier se maintenant quand même à la deuxième, suivi par la marche consulaire d'Alain Duhamel, qui passe ainsi de la neuvième à la troisième place.
Palmarès complet dans l'Express et sur RTL.fr. Le coup de cœur du libraire nous emmène à Rouen, à la librairie L'Armitière, où Mathieu de Montchalin a choisi Au Zénith, le nouveau livre de la romancière vietnamienne Duong Thu Huong.
C'est une histoire folle. Ho Chi Minh, le père du Vietnam, eh bien Ho Chi Minh, à 60 ans, tombe amoureux d'une jeune femme. Et il veut officialiser cet amour. Malheureusement, ça ne plaît pas à ses camarades de révolution. La femme est assassinée par les révolutionnaires. Les enfants sont obligés d'être cachés. Et Ho Chi Minh ne peut pas vivre son amour. Et en fait, ça c'est l'intrigue, je dirais, générale. Et je pense que vos auditeurs n'ont pas besoin d'en savoir plus avant de plonger dans le livre. Et après, vous rentrez dans le cœur du Vietnam. Vous découvrez ce pays où toutes les nuances du vert existent. Où on mange tout le temps de manière sublimissime. Et ça, dans tout le roman, on mange. Et c'est agréable, c'est fin, c'est une très belle écriture. Il y a une vraie intrigue politique, il y a une vraie découverte du pays, de l'histoire de ce pays. Je crois que c'est un des romans de la rentrée.
Au Zénith de Duong Thu Huong, aux éditions Sabine Vespizer, nous était proposé par Mathieu de Montchalin, de la librairie L'Armitière à Rouen. Alors vous, Delphine Perras, qu'avez-vous dans votre besace ?
Eh bien, à lui seul, le titre de ce livre est une promesse de divertissement. La brève et merveilleuse vie d'Oscar Waouh.
Waouh. Waouh.
Nul doute que cet Oscar Waouh emprunte beaucoup à son créateur, Junot Diaz, 40 ans, américain, mais né à Saint-Domingue, et dont voici le premier roman, Prix Pulitzer 2008, s'il vous plaît.
Ah oui, disons que c'est la plus grande récompense aux États-Unis.
Exactement,
hein.
D'emblée, c'est leur concours d'emblée. Donc, comme l'écrivain, Oscar, le héros du livre, est lui aussi le fils d'obscurs exilés dominicains établis dans le New Jersey, fou de bande dessinée et de science-fiction, bavard, impénitent et apprenti écrivain. Mais difficile pour Oscar de croire au rêve américain. Non seulement il est gros, moche, timide, empoté, il tremble pendant les cours de gym et n'arrive qu'à faire fuir les filles. Mais en plus, sa famille revient de loin, et notamment de la sanglante dictature de Trujillo qui a tyrannisé Saint-Domingue de 1930 à 1961. Oui. Et elle n'arrive pas, cette famille, à se débarrasser de cette malédiction ancestrale qui est le foucou.
Le quoi ? Qu'est-ce que c'est le foucou ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
La malchance, Bernard, le mauvais sort, le mauvais œil, cette poisse qui les poursuit depuis des générations. Et c'est forcément la cause des malheurs du jeune Oscar, voyons donc. Il va finir par retourner dans son île natale où il trouvera enfin l'amour, même si c'est un amour fatal. Pas étonnant que cet écrivain soit devenu la coqueluche des nouvelles générations latino. Il signe là un roman vraiment très haut en couleur qui offre un cocktail détonnant de toutes les influences dont il est issu, du vaudou au hip-hop, du parler créole au slang. Vous savez, Bernard, ce mélange d'espagnol et d'anglais pratiqué dans les ghettos hispaniques.
Ben non, je ne savais pas.
Et ben voilà,
vous m'avez appris ça au moins aujourd'hui.
Chapeau d'ailleurs au passage à la traductrice Laurence Viellet qui a fait un boulot remarquable.
Et on redonne les références.
La brève et meilleure merveilleuse vie d'Oscar Waouh de Junot Diaz et c'est aux éditions Plon.
Merci Delphine Perras. Henri Quinson, alors après nous avoir fait partager votre passionnant témoignage, on l'a entendu tout à l'heure, de trader devenu moine des cités, dites-nous, quel est votre mot préféré ?
En ce moment, j'aime bien le mot contraste. Je me rappelle d'une histoire avec un de mes petits voisins, Ahmed, qui avait 8 ans.
Que vous racontez dans le livre,
d'ailleurs. Je le raconte dans le livre, exactement. Et il me dit, ça veut dire quoi, contraste ? Et alors, je lui montre mon avant-bras à la peau beaucoup plus claire que son avant-bras à lui, puisqu'il est d'origine des Comores, une petite île dans l'océan Indien. Et je lui dis, voilà, ta peau est noire, ma peau est blanche, c'est ce qu'on appelle un contraste. Et il me regarde très étonné, du haut de ses 8 ans, il me dit, mais ta peau n'est pas blanche, elle est rose. Et ma peau n'est pas noire, elle est marron. Et j'ai trouvé absolument délicieux cette définition précise du mot contraste, qui n'est pas forcément binaire, qui n'est pas forcément du noir et blanc, mais il y a ce passage à la couleur et qui nous rapproche plutôt qu'elle nous divise. Donc comment arriver à gérer justement ces contrastes et faire un beau tableau en couleur et pas simplement en noir et blanc.
Merci Henri Quinson, moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, aux éditions Nouvelle Cité. Vous pouvez retrouver et podcaster les livres en la parole sur rtl.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne lecture.